Bonjour à tous et bienvenue sur Teasing, la chaîne du cinéma anglophone de Transistor. Pour ce numéro 3, Teasing applique la règle de 2. Deux films, deux réalisateurs dont la France sélectionne et diffuse le second film. Ainsi, c'est le film Touriste, en anglais Sightseers, qui est à l'honneur dans la première partie, ainsi que son réalisateur, le britannique Ben Whitley, dont les aficionados connaissent aussi le thriller Kill List, sorti en France l'an dernier. Nous trichons un peu avec Ben Whitley puisque son premier film, Down Terrace, est bien sorti en Angleterre en 2008 mais n'a jamais traversé la Manche. En seconde partie, nous parlerons du polygraphe Martin McDonagh. Cet écrivain, metteur en scène, réalisateur irlandais, développe œuvre après œuvre un univers éclectique teinté d'humour noir et d'ironie grave. Vous connaissez Martin McDonagh, vous le connaissez pour un thriller parodique et brillant qui a eu les honneurs en 2008, Bon baiser de Bruges. Toujours avec son compatriote Colin Farrell, Martin McDonagh met en scène une comédie noire et déjantée, Seven Psychopaths, qui nous livre quelques clés de son projet d'écriture. Comédie macabre, humour noir, humour désespérant, ce diptyque anglo-irlandais nous ouvre à nouveau les portes du fameux humour anglais, argument de vente s'il en est sur le marché du film. Cependant, au-delà des traits d'esprit immortels et du flegme d'outre-manche, l'humour noir est aussi tiroir narratif, jeu formel et partie piégée. C'est là où nous entraînent ces films plus brillants qu'ils en ont l'air. Ben Whitley et Martin McDonagh sont sur Teasing pour ce numéro 3, pourquoi nous vantons l'humour anglais.
Going to pick that up.
I didn't do that.
If you don't pick up this excrement immediately, then I'm going to have to inform the National Trust.
Report that to the National Trust, mate.
I don't want this to ruin our holiday.
Get in.
Never thought about murdering innocent people before.
It's not a person, Tina, he's a Daily Mail reader. Say one word and it's...
Les films que nous présentons ce mois-ci provoquent une jubilation rare. Ils vous guériront du premier degré sinistre des productions anglophones bientôt récompensées au BAFTA, des pixels vomitifs du Hobbit ou des slogans pro-NRA de Jack Reacher. Touriste et Sept psychopathes sont l'histoire de deux mondes. Deux mondes qui se déroulent peu à peu sur la pellicule, sur le mode d'un engrenage qui vous happe et vous mène aux frontières de la morale et de la logique, en compagnie des dingues, des chapeliers fous et des bien nommés psychopathes. S'il n'y a qu'une seule façon de définir l'humour anglais, c'est celle-ci. L'humour crée un univers où le sens se brouille, voire s'inverse. Si le film ne vous rejette pas en route, il forcera votre complicité jusqu'à l'abjection. L'humour est une humeur du monde et l'humeur noire, on le sait, ce n'est pas celle du rire. L'humour exagère les absurdités du monde qui vous entoure afin de forcer chez vous le rire ou le sourire, c'est-à-dire la distance qui vous sera nécessaire pour vous protéger, pour voir combien notre monde est absurde et plus cruel encore que le film qui vous l'a révélé. L'humour s'ajoute donc avec la familiarité, et l'horrible familiarité, voilà le climat de la comédie horrifique Sightseers, Touriste, en salle depuis le 30 décembre en France. Ils sont moches, ils sont bêtes, ils sont attachants et drôles. Tina et Chris, touristes anglais, ne demandaient qu'à passer quelques jours de vacances tranquilles en amoureux. Tina, introvertie, étouffée par une mère poule vampe et odieuse, prend un véritable bol d'air quand son copain Chris lui propose de lui faire découvrir son univers. Mais leur voyage en camping-car dans les charmes bucoliques de l'Angleterre pour touristes va bientôt virer au cauchemar. Un barbecue d'ado bourré, des campings réservés, un randonneur procédurier et écolo, toute la médiocrité du monde conspire à exaspérer nos héros et les pousse à commettre le pire. Un assassinat en entraîne un autre, en entraîne un autre, en entraîne un autre, en entraîne un autre. Et voilà que les vacances de Tina et Chris tournent à l'engrenage meurtrier. Le rire et la complicité dans Sightseers viennent de là. Après tout, nos sympathiques vacanciers qui pètent les plombs massacrent tout ce qui, à leur portée, méritait objectivement de mourir. Or ici on est sur Teasing, et dans ce film, il y a plus que de l'humour noir et de la méchanceté gratuite, même si elle est jouissive. Pour comprendre le malaise qui a pris les spectateurs anglais, et qui pourrait vous prendre aussi, il faut d'abord savoir que les paysages dans lesquels évoluent nos sanglants randonneurs, qui nous paraissent si exotiques à nous autres froggies, sont pour un British aussi familiers que nous est familier le plateau du Larzac ou une vigne bourguignonne. Et que c'est aussi une exaspération toute familière à nos autres vacanciers qui pousse nos personnages au meurtre. Dans ce film, l'assassinat devient un geste touristique, geste quotidien, pire, une mesure d'assainissement écologique, social et politique. La série de meurtres monte en intensité et en vitesse et vous donne le sentiment d'une guerre contre tous. Le monde de touristes pousse à l'extrême la logique du nôtre, en montrant combien deux inadaptés retournent contre les autres la violence larvée qui les détruisait à petit feu. Une angoisse et une tristesse complètement inattendues vous montent à la gorge à mesure que votre complicité avec le personnage féminin, Tina, se tisse jusqu'à l'acquiescement et jusqu'à l'empathie.
We both said what a nice couple we thought you were. Oh, I love her.
I can fly!
Everyone else seems to find it so easy to express themselves. I mean, even you've got your knitting. Have you had a nice holiday?
Yeah, had a brilliant holiday.
Fuck you!
Comme son camarade Peter Jackson, dont il partage les yeux rieurs et le gabarit, Ben Wheatley est un vrai monsieur du cinéma. Comme Peter Jackson, je vous parle du Peter Jackson d'avant Le Hobbit, film monstre qui a perdu le sens de la beauté, de l'ironie et de l'équilibre. Comme Peter Jackson, donc, il a une intelligence très fine des moyens techniques, un dosage malin de l'ironie et du mauvais goût, de l'empathie et de la distance. Tourist joue donc sur le mode de la comédie ce que Kill List faisait déjà sur le mode du film noir. Kill List, rappelez-vous, c'était ce thriller dérangeant où un tueur à gages se voyait remettre une liste par un commanditaire inconnu de personnes à tuer. Personnes qui toutes, au moment de leur exécution, adoptaient un comportement bizarre, comme lors d'une sinistre scène du marteau qui a fait connaître le film. Une scène difficilement soutenable où vous entendez la victime remercier son bourreau.
I understand. You have to do what you have to do.
Comme qu'il liste en effet. Touriste est sorti d'un format court. C'était d'abord un sketch des interprètes principaux, les humoristes Alice Lowe et Steve Oram, qui ont coécrit le film. Les personnages dans ce sketch, exaspérés par un touriste écolo, finissaient par l'abattre, à bout de l'air. Il y avait là une simple logique de gradation très efficace et très drôle. L'argument de Kill List et son twist ending, quant à lui, aurait pu remplir un court-métrage. La recette de Wheatley pour faire durer la forme longue, mais aussi pour l'interroger, c'est de faire naître le rire et l'angoisse avec le mécanisme de la répétition. En effet, si les films de Wheatley peuvent lasser ou agacer, c'est que contrairement à bien des blockbusters, récompensés au BAFTA là encore, leur ligne narrative n'est pas ascendante. Elle ne culmine pas vers un climax. Ses seuls soubresauts, comme le fameux meurtre au marteau de Kill List ou bien les coups de pelle dans Tourist, vous prennent malhonnêtement au dépourvu. L'écriture de Wheatley met à nu un mécanisme de répétition qui pousse les personnages à la folie. Le titre de Kill List contient bien ce programme. Touriste est lui aussi une liste de meurtres. Sauf qu'à un moment, le personnage voudra interroger le sens de la liste, mais il n'y parviendra plus. La répétition se sera emparée de lui, alors on perd pied, physiquement. Une fois que Ben Wheatley a forcé votre complicité avec celle du personnage, sa mise en scène commencera à vous faire douter de la réalité des faits représentés. La technique vient au secours du propos, avec un jeu de focale qui déforme subtilement les perspectives, des contrastes lumineux intenses entre les paysages anglais et le sang des personnages, un intertexte cinématographique fourmillant et touffu, les films gothiques de Terence Fisher par exemple, qui fait presque virer les deux films à l'exercice de style. C'est là le défaut des brillants élèves, mais c'est aussi heureusement ce qui vous permet de respirer entre deux séquences choc. Qu'on ne s'y trompe pas, Touriste contrairement à Kill List, c'est drôle, c'est hilarant même. C'est que le cinéma de Ben Wheatley ne connaît que deux rires. Celui qui sanctionne la transgression, celui dont parlait Bergson, et le rire jaune, celui qui vous en protège. La force et la limite de ce cinéma-là, au-delà de son mauvais goût ou de sa radicalité, c'est que le rire y est puissant, mais pour le spectateur, c'est au mieux un refuge. Alors on aime dans Touriste Cet humour vachard, ce côté punk et no future, et nous vous invitons à tenter l'expérience dans les salles touristes depuis le 30 décembre. En deuxième partie, nous vous parlons de Martin McDonagh. McDonagh avec GH à la fin, ce GH qui fait si peur à nous autres non-anglophones et que nous ne savons pas prononcer, ni moi d'ailleurs. Martin McDonagh, écrivain, metteur en scène, réalisateur irlandais, revient cette année avec un thriller qu'il nous semble intéressant de mettre sur le devant de la scène car vous pourriez l'ignorer en raison de son apparente frivolité. Ce thriller, c'est Seven Psychopaths.
Ok, everybody comfortable? Cell phones off, right? Okay, here we go.
Seven Psychopaths is the winner of the Toronto Film Festival's People's Choice Award.
Hey!
Where'd you get this little shih tzu, Billy?
He's kidnapped from a maniac.
It has one of the best ensemble casts in years.
I want it to be about love. Peace.
As long as it isn't gonna be too violent.
Christopher Walken is hysterically funny.
Okay.
Woody Harrelson delivers a nicely deranged performance.
When were you gonna mention this?
Colin Farrell is at the top of his game.
Well, that's just great!
And Sam Rockwell explodes off the screen.
Who, me?
You've gotta give it back. The guy this psychopath!
Give it back? I'm gonna just give back a kidnapped dog? Defeats the entire object of the kidnapping.
Seven Psychopaths.
What do you think?
Well, it's very...
Alors, vous l'entendez dans le trailer, le film comprend un casting 5 étoiles. Woody Harrelson, Colin Farrell et Christopher Walken, le mec qui, au milieu de la bande-annonce, se demande si tout cela ne va pas devenir un petit peu trop violent. L'argument du film tourne autour de l'enlèvement de la petite little piece of shit que vous entendez au début du film, au début de la bande-annonce, pardon, c'est-à-dire un petit chien, le petit chien d'un truand qui va tout faire pour le récupérer. Est-ce que le film se résume à cette trame scénaristique pour le moins mince ? Eh bien non, pas du tout, car ceci est une trame fictive. Le véritable héros du film est en effet Marty, un scénariste hollywoodien en panne d'inspiration. Confronté à l'angoisse de la page blanche, il peine à finir le scénario que je viens de vous décrire, et dont le titre est, comme le film, Seven Psychopaths. C'est son meilleur ami Billy, comédien raté et kidnappeur de chiens à 16 heures, qui décide de l'aider en kidnappant un vrai chien pour mettre sur la route de Marty de véritables criminels. Réalité et fiction vont alors se mêler dans une course-poursuite pleine d'explosions et de traits d'humour. L'actualisation de la fiction dans le monde réel, et les frontières morales et logiques de cette actualisation, c'est ce qui a toujours occupé Martin McDonagh, que ce soit dans son travail de réalisateur, d'écrivain ou même de metteur en scène.
Ariel's getting a bit aggrieved. Because you see, we can draw our own conclusions as sort of our job. And the first conclusion we are drawing is exactly how many stories have you got a little girl is treated badly or a little boy is treated badly?
A few? A few?
A few? I'll show you a fucking few. The first fucking 20 we picked up was little girl is fucked over this way or a little boy is fucked over this way.
But that isn't saying anything. I'm not trying to say anything.
You're not what?
What?
Not what?
What? Are you trying to say that I'm trying to say that the children represent something?
I am trying to say...
The children represent the people or something?
I am trying to say? He's putting words into my fucking mouth now, I am trying to say, let alone draw a fucking conclusion.
No.
Oh, we can't even speak now, this fucking man says. Get your fucking hands down.
Anytime you're ready, Ariel.
The Pillow Man est la pièce la plus représentée de son auteur. Dans un état totalitaire, Katourian Katourian vit de sa profession d'écrivain. Ses contes noirs et pessimistes, écrits à la manière de Grimm, racontent les malheurs d'enfants torturés et assassinés. En cela, Katourian ne fait rien d'autre qu'exorciser de façon névrotique la violence de la société dans laquelle il vit. Il est alors arrêté par deux détectives à la suite d'une série de meurtres d'enfants que l'on croit inspirés par ses contes. La pièce est traversé de récitations de certains de ses contes, lesquels renvoient les personnages au traumatisme de leur propre enfance, y compris Katourian, qui se souviendra comment lui est née son inspiration sordide. Miné par une ironie ravageuse, la pièce évite toute complaisance dans le malsain malgré son propos très dur, et explore, brillamment mais assez vainement, certains des rapports entre littérature et politique. Au début, Caturian croit qu'on l'accuse de véhiculer un message dissident à travers ses contes, avant de s'apercevoir que la raison pour laquelle le détective Ariel lui en veut est peut-être beaucoup plus personnelle. À cet interrogatoire, sur des bases extrêmement réalistes, le Pillow Man, le personnage de l'un des contes, va ajouter une dimension fantasmagorique qui va ensuite contaminer toute la pièce. D'un genre à l'autre, de la comédie au drame, c'est donc les mêmes mécanismes qui occupent Martin McDonagh. Autrement dit, les mécanismes par lesquels la fiction copie ou dépasse la réalité est utilisée de façon complètement gratuite et jouissive dans Seven Psychopaths. Naturellement, dans le film, cette circulation est à double sens. Ainsi, on ne cessera de vous rappeler, tout au long de la projection, que la petite amie de Sam Rockwell est jouée par une James Bond girl, of course, puisqu'elle est sexy. Sam Rockwell, dans ce film, est naturellement un metteur en scène, fauché, qui n'a plus pour s'amuser qu'à organiser cet énorme bazar qui va bientôt échapper à son contrôle. D'un côté, des explosions à gogo et des acteurs en roue libre, de l'autre, un dispositif extrêmement maîtrisé de mise en abîme et de jeu de miroir. Seven Psychopaths est un spectacle maîtrisé, le maître en étant Martin McDonagh qui connaît ses règles, ses références et les outils du metteur en scène. C'est d'ailleurs à Hollywood que se déroule l'action, comme si nos sept fous, nos sept mercenaires, les sept psychopathes allaient nous rejouer malgré eux les grands succès d'un cinéma qui les a façonnés à leur insu. Chacun se rêve gangster, sauveur, séducteur, et comme chez Tarantino, c'est le décalage entre les attendus du genre et les réactions des personnages qui provoque le rire. Ce n'est plus l'art imitant la nature, c'est comme dans The Pillow Man, la vie imitant l'art sans remords ni regrets. Les critiques anglophones évoquent, à la vue de ce film, un tissu très riche, Rob Grillet, Anaïs Varda, Tarantino et Coppola, et même Shakespeare et le théâtre baroque. Chaque personnage, y compris le tueur des bas-fonds joué par Woody Harrelson, joue un rôle, sait qu'il joue un rôle. Les psychopathes du film sont donc les idiots, déchaînant le bruit et la fureur. Oui, McDonagh connaît ses gammes, et sa direction brillante, jamais étouffée par ses références, devient un film d'action, une satire féroce et mordante du milieu hollywoodien. Seven Psychopaths sort le 30 janvier en France, c'est le seul film sélectionné au BAFTA qui montre combien le second degré outre-manche, et surtout intelligence de la forme, l'écran assumant pleinement sa fonction ambiguë de kaléidoscope et de miroir. Merci d'avoir écouté cette édition de Teasing. Je rappelle que Touriste est sorti le 30 décembre en France et que Seven Psychopaths sortira le 30 janvier. Dans la prochaine édition de Teasing, nous mettrons deux festivals anglais à l'honneur. Le premier est un festival étudiant qui se déroule à Cambridge et à Londres, le festival Watersprite. Et le second, c'est bien entendu la remise des BAFTA. Et nous ferons le commentaire, l'historique et la critique des récompenses du BAFTA qui seront décernées le 10 février.